RFI, grand reportage.
Guillaume Cordeau.
Près d'une décennie après avoir proclamé son indépendance, le 17 février 2008, le Kosovo est dans l'impasse, englué dans une interminable crise économique qui pousse les jeunes à l'exil, tandis que les négociations sur la normalisation des relations avec Belgrade sont au point mort. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'arrange rien. Personne ne sait si l'allié américain montrera dans les prochaines années autant d'empressement qu'avant pour soutenir le petit pays. Kosovo, la croisée des chemins, c'est un grand reportage de Jean-Arnaud Desreins et Laurent Gélin.
Chambre d'instruction de la cour d'appel de Colmar, 6 avril 2017. Un homme sort sous les vivas de la foule des Kosovars installés en France ou en Suisse. Ramush Haradinaj, ancien commandant de l'armée de libération du Kosovo, Luceka, ancien Premier ministre, n'est pourtant pas encore tiré d'affaire. Arrêté le 4 janvier dernier à l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg, sur la base d'une notice Interpol émise par la Serbie, il est accusé par Belgrade d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils en juin 1999, alors que le conflit prenait fin. Ramush Haradinaj clame son innocence après avoir été acquitté à 2 reprises dans d'autres affaires par le Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie. Cette fois, il risque une extradition vers Belgrade.
Et j'ai expliqué que c'est à base politique et que c'est un piège pour la justice française, mais je suis confiant qu'il y a eu assez d'éclairage pour voir que cette demande d'extradition ne tient pas. Cette situation, c'est une insulte pour la communauté internationale, pour l'Europe unie et pour la France. Il y a eu le tribunal international pour l'ancienne Yougoslavie, mais pour Belgrade, ça revient. Moi, je tiens à ma identité albanais du Kosovo. Kosovo est indépendant, donc la juridiction de la Serbie sur nous, ça n'existe pas, ça existe.
Ramush Haradinaj va patienter jusqu'au verdict du 27 avril prochain pour connaître son sort. La cour va notamment devoir dire si l'ancien militaire peut bénéficier à Belgrade d'un procès équitable. Dans les rangs de ses partisans, on préfère prévenir. La seule solution pour maintenir la stabilité de la région est une libération sans condition de l'ancien Premier ministre.
Selon de tous les Albanais de Kosovo et aussi de tous les Albanais qui sont un peu partout au monde, ils ont besoin de M. Haradinaj. M. Haradinaj, c'est notre général de Gaulle. On trouve un peu absurde. Comment on arrête un commandant qui est respecté par tous les Albanais. Donc la France sait très bien ce qui se passera si jamais il envoie en Serbie. Si la France veut la paix au Kosovo, en Albanie, en Macédonie, en Serbie, au Monténégro, je pense qu'il faudra les laisser partir chez lui.
Ancien commandant de la guérilla de l'armée de libération du Kosovo, Luceka, tout comme Hashim Thaçi, devenu l'an dernier président du Kosovo, Ramush Haradinaj a créé son propre parti, l'Alliance pour l'avenir du Kosovo, clairement ancré dans l'opposition, et il n'a pas de mots assez durs pour ses anciens compagnons d'armes. Son arrestation a cependant fourni le prétexte idéal pour arrêter les poussives négociations menées depuis 2011 à Bruxelles sous l'égide de l'Union européenne sur la normalisation des relations entre Pristina et Belgrade. Le Parlement du Kosovo a même voté une résolution formelle. Aucune reprise de ce dialogue avec la Serbie ne sera possible si l'ancien commandant n'est pas remis en liberté. L'affaire Haradinaj n'est en fait que le dernier épisode d'une série de provocations qui ont entraîné ces derniers mois un regain de tension entre les deux pays. Un mur a par exemple été dressé dans la partie serbe de la ville toujours divisée de Mitrovica. Édifié en décembre et abattu début février, ce mur de Mitrovica a fait craindre le pire. Les chancelleries occidentales voyaient déjà revenir le spectre menaçant d'un nouveau conflit. L'analyste Dukajin Gorani exclut pourtant l'hypothèse d'une reprise des hostilités.
Je pense que les sociétés des Balkans sont peu disposées à provoquer de nouveaux conflits. Et ce constat sera la pierre angulaire de la stabilité régionale. Dans un monde de plus en plus instable, les sociétés des Balkans vont s'écarter de tout conflit potentiel parce qu'elles en connaissent le prix. Les discours officiels sont belliqueux, mais je ne vois aucune société balkanique prête à provoquer une guerre.
And to provoke something real in terms of conflict.
Principal point d'achoppement entre Belgrade et Pristina, la création d'une association des communes serbes qui réunirait les municipalités du Kosovo où vivent les quelques 60 000 Serbes du pays. La création de cette association a été négociée à Bruxelles, approuvée par le Parlement du Kosovo, mais en réalité, les deux pays ne se sont pas mis d'accord sur les compétences réelles de la nouvelle structure. Accordera-t-elle une véritable autonomie aux Serbes du Kosovo comme le pense Belgrade ? Ou bien ne s'agira-t-il, comme veut le croire Pristina, que d'un simple cadre administratif gérant les problèmes techniques comme la voirie ou les espaces verts ? Chacun lit le document à sa manière et le président du Kosovo, Hashim Thaçi, ne semble pas décidé à signer le décret nécessaire à sa mise en place. Igor Simic est conseiller municipal de la commune serbe de Mitrovica Nord.
Pour la formation de l'association des communes serbes, il suffit tout simplement que les responsables politiques de Pristina adoptent un décret conforme aux accords signés à Bruxelles. La classe politique albanaise n'a fait preuve d'aucune responsabilité depuis le début des négociations, ni vis-à-vis de la communauté internationale, ni vis-à-vis de son propre peuple. Ils ont prétendu que l'association des communes serbes serait une sorte de simple ONG, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, ils payent le prix de leur mensonge. Pour que le processus se poursuive dans l'esprit de ce qui a été signé, il est indispensable que les représentants internationaux envoient des messages forts aux politiciens albanais afin qu'ils remplissent leurs obligations.
Pour l'opposition du Kosovo et notamment pour sa principale composante, le mouvement Veteven Dossier, la création de l'association des communes serbes risquerait d'entraîner une partition communautaire du pays sur le modèle de la Bosnie-Herzégovine toujours divisée depuis la fin de la guerre en 1995 entre la Republika Srpska, majorité serbe, et la Fédération croato-bosniaque. Belgzim Kamberi est journaliste et membre de la présidence de Veteven Dossier.
Bosniser le Kosovo, ça voudrait dire que le Kosovo se partagerait en deux entités internes et surtout ça veut dire que le Kosovo serait encore plus dysfonctionnel qu'il ne l'est aujourd'hui, 9 ans après la proclamation de l'indépendance du Kosovo. Ça voudrait dire que le Kosovo serait partagé un peu entre une partie serbe et une partie kosovare qui regrouperait un peu toutes les autres communautés non serbes. Donc on serait moins loin d'un pays souverain comme on l'a pensé quand on a proclamé l'indépendance du Kosovo.
Dans cette situation bloquée, les responsables politiques de la région lancent des regards inquiets vers les Occidentaux et particulièrement vers le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. L'Europe ne semble pourtant pas faire partie des priorités affichées du nouveau président américain, et les Balkans encore moins.
Pour le moment, on ne peut pas encore sentir de changement important sur la politique américaine envers le Kosovo, mais bien évidemment qu'il y a une peur, surtout en ce qui concerne la relation du nouveau président des États-Unis avec Poutine. Et est-ce que ce aura des répercussions dans les Balkans ?
Si la mansuétude que Donald Trump semble afficher à l'égard de la Russie se confirme, le rapprochement entre les deux grandes puissances sera accueilli favorablement du côté serbe. Igor Simic.
Monsieur Trump n'a pas encore complètement formé l'équipe qui va mener sa politique, aussi bien sur le plan intérieur que sur la scène internationale. Il est donc difficile de prévoir ce qui va se passer. Tout ce que je sais, c'est que la nervosité monte chez les Albanais, qui craignent que Trump ne mène une politique à l'égard du Kosovo différente de celle de la précédente administration.
À Mitrovica Nord, les immenses portraits du favori traditionnel des nationalistes serbes, Vladimir Poutine, ont presque tous disparu des rues, remplacés par des graffitis ou des fresques murales à l'effigie du président américain. Aux États-Unis, la diaspora serbe, très implantée dans la vieille ceinture industrielle, avait d'ailleurs largement soutenu Donald Trump face à la candidate démocrate. Car pour beaucoup de Serbes, la famille Clinton symbolise les bombardements de 1999.
D'une part, les Serbes voulaient que soient sanctionnés ceux qui ont bombardé notre peuple sans raison et sans mandat du Conseil de sécurité, ceux qui ont soutenu la sécession du Kosovo. Les Serbes célèbrent la défaite des tueurs de Serbes. D'un autre côté, ils espèrent un changement de politique à la hauteur de la crainte que ce changement inspire aux Albanais. Ce que les Serbes voient comme une bonne chose, les Albanais le voient comme une mauvaise. Chacun regarde ses intérêts nationaux.
Dans les bureaux du ministère des Affaires étrangères du Kosovo, on se réjouit pourtant des moindres signaux positifs que la nouvelle administration américaine peut envoyer à Pristina, comme la lettre de félicitations reçue le jour de l'anniversaire de l'indépendance, le 17 février dernier, un geste qui relève pourtant du service diplomatique minimum. Qu'importe, pour le ministre Enver Hoxhay, les États-Unis ne lâcheront jamais le Kosovo.
State building, democratization.
La construction d'un état de droit, la démocratisation et l'économie de marché ne peuvent se faire sans les Américains et les Européens. La moitié de la région fait partie de l'OTAN, l'autre moitié de l'Union européenne. Et encore une autre moitié se dirige vers l'UE et l'OTAN. Et au final, ce sont des investissements européens et américains.
L'année qui vient s'annonce pleine d'incertitudes, aussi bien pour l'Union européenne que pour les capitales des Balkans, qui vont suivre avec beaucoup d'intérêt les élections en France et en Allemagne. Car après la sortie du Royaume-Uni des structures européennes, et alors que Bruxelles semble incapable d'impulser de nouvelles dynamiques dans le sud-est de l'Europe, seules les pressions des deux pays les plus importants de l'Union auront une chance d'être écoutées dans les Balkans. Naïm Rachiti est le directeur d'un centre d'analyse de Pristina.
Avec le Brexit, le Kosovo a perdu son meilleur ami et son meilleur avocat au sein de l'UE. Le Kosovo est à la croisée des chemins concernant la libéralisation des visas, le dialogue avec la Serbie qui est très difficile et la consolidation de l'état de droit.
Pas sûr cependant que les citoyens du Kosovo soient encore prêts à patienter longtemps pour espérer voir un jour leurs conditions de vie s'améliorer. Le chômage touche la moitié de la population active et la corruption endémique fait fuir les investisseurs. Les rêves de croissance et de prospérité de 2008 se sont envolés depuis bien longtemps. Pour les habitants du petit pays et particulièrement pour les enfants de l'indépendance, pour ceux qui ont grandi depuis la fin de la guerre, la priorité c'est de trouver un emploi pour survivre. Enver Hoxhay, le ministre des Affaires étrangères, assure pourtant que le Kosovo est sur la bonne voie.
Nous pouvons parfois être mécontents, parfois frustrés, parfois nous voudrions nous rapprocher plus vite de Bruxelles et de l'Europe, mais la région est stable. Il y a une croissance économique, une stabilité macroéconomique et fiscale. Devons-nous revenir au communisme? Devons-nous revenir aux guerres des années 1990?
Durant l'hiver 2015, plus de 100 000 personnes sont parties pour l'Europe occidentale, suivant les chemins hasardeux des passeurs. Beaucoup sont revenus après avoir été expulsés. Aussi, pour contrecarrer cette migration illégale, l'Allemagne a trouvé une parade, passant un accord avec le gouvernement de Pristina. Désormais, Berlin recrute des travailleurs directement sur le territoire du Kosovo. Bedrit Jaffa est le directeur de l'agence APPK, qui sélectionne les candidats au départ.
L'Allemagne profite de cette situation car elle peut recruter les gens qualifiés dont elle manque. De son côté, le Kosovo ne peut offrir du travail à tous. Grâce à nos programmes, les jeunes partent en Allemagne où ils suivent une formation en alternance qui leur permet d'engranger de l'expérience. Dans quelques années, ces derniers pourront peut-être revenir dans leur pays et le faire profiter des connaissances apprises là-bas. Ces jeunes pourront aussi apporter une aide économique à leur famille. Nous sommes donc vraiment dans une situation où tout le monde gagne.
Dans l'une des salles de l'agence, ils sont une vingtaine, des filles et des garçons, à apprendre l'allemand. Dans quelques semaines, ils commenceront une nouvelle vie loin de chez eux. Comme ses camarades, Bashkim, 22 ans, va suivre une formation pour devenir auxiliaire de vie auprès de personnes âgées.
Je ne suis jamais allé en Allemagne, mais aujourd'hui, Internet nous permet de voir peut-être encore mieux le pays que si on y était déjà allé. Et un pays qui vous offre une bonne éducation, un bon emploi et une vie meilleure, ça doit être un endroit super.
Bien peu de ceux qui quittent leur pays natal reviennent un jour y vivre. Au Kosovo, le minimum social n'est que de 60 euros par famille et par mois, même pas de quoi payer une facture d'électricité. L'Allemagne, c'est donc l'Eldorado, un rêve qui devient réalité tous les étés quand les immigrés reviennent au pays au volant de grosses voitures achetées à crédit. Naïm Rachiti.
Il y a un réel besoin de travailleurs pour les entreprises allemandes. Les Balkans occidentaux et le Kosovo sont une bonne opportunité pour recruter de la main-d'œuvre bon marché. Pour le gouvernement allemand, en collaboration avec le Kosovo, c'est aussi une façon de gérer les migrations illégales.
Berlin recrute des infirmiers, des soudeurs, des électriciens ou des ingénieurs, des gens qualifiés qui ont fait des études, des jeunes qui sortent de l'université. Pour les autres, pour tous les autres, la porte reste fermée. Alors il faut trouver des combines, des gens qui accordent des contrats de travail. Sur Internet, le marché noir s'organise. Skender a longtemps vécu en France sans papier avant de revenir au Kosovo.
J'essaie de trouver une visa de travail, quoi. Allemagne, Suisse, peu importe, Italie. Faut chercher, trouver par les gens, en demandant, en regardant. Et je vais me casser d'ici, c'est tout. Si je trouve un bon prix, pourquoi pas? Ça retourne à 3500, 3000 pour une visa de travail de 3 ans. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait. Et ils ont même publié sur Facebook les contrats de travail et tout ça.
La plupart des citoyens du Kosovo n'attendent plus rien de leur classe politique, ni bien sûr des négociations de Bruxelles. La seule avancée vraiment significative serait une levée du régime des visas avec l'espace Schengen. En théorie, Bruxelles n'a qu'une condition, que le Parlement du Kosovo approuve la démarcation de la frontière avec le Monténégro. Mais la plupart des Kosovars ne sont guère optimistes. Si cette étape était franchie, d'autres conditions ne manqueraient certainement pas d'apparaître. Dans le centre de Pristina, deux lettres du monument Newborn, érigées le 17 février 2008 lors de la proclamation d'indépendance du Kosovo, ont d'ailleurs été déposées sur le sol, le N et le W. No wall, pas de mur. Tel est le message que veut faire passer le créateur de l'œuvre, le plasticien Fisnik Ismaili.
Les murs nous entourent dans le monde entier, pas seulement des barrières physiques, mais aussi des murs symboliques. L'Union européenne construit des murs en nous refusant la libéralisation des visas. Ce message est pour abattre les murs.
Les négociations avec Bruxelles pourraient prendre encore des années, d'autant que l'Union européenne, affaiblie par le Brexit, aura bien du mal à parler d'une seule voix. Malgré cela, l'analyste Dukajin Gorani veut croire à une relance du processus politique sur des bases nouvelles.
We are now heading towards a renewal of the negotiating process.
Nous allons vers un redémarrage du processus de négociation. Premièrement, les négociations actuelles vont être abandonnées et de nouvelles discussions vont débuter, avec une issue inévitable, la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la Serbie. Belgrade s'y prépare.
Le retrait américain pourrait aussi ouvrir la porte à d'autres acteurs. La Russie tente de placer ses pions du Monténégro à la Serbie et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan compte ses soutiens au sein des populations musulmanes de la région. Un cocktail dangereux.
Je pense que les dynamiques internationales, l'élection de Trump, le Brexit, la situation en France, vont entraîner dans les Balkans des retards dans les règlements régionaux. Si une crise éclate dans les Balkans, je ne pense pas qu'elle sera générée de l'intérieur, mais bien de l'extérieur.
Le Kosovo, comme tous ses voisins, aspire à rejoindre un jour l'Union européenne. Mais depuis l'éclatement de l'ancienne Yougoslavie, il y a un quart de siècle, la région a été rejetée dans une position périphérique. D'où cette question qui demeure, les Balkans sont-ils condamnés à redevenir le terrain de jeu des affrontements entre les grandes puissances? Kosovo, la croisée des chemins, un grand reportage de Jean-Arnaud Dérins et Laurent Gélin.